Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma sur Divergence FM, émission de ce mercredi 2 juin. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Nous sommes encore deux à combler cette heure, alors peut-être que nous n'allons pas d'ailleurs totalement la combler, ce sera une surprise en fin d'émission. En tout cas, eh bien, on va annoncer le sommaire. Il y aura un spécial Dennis Hopper me concernant, alors tu pourras peut-être m'aider d'ailleurs parce que tu as vu un documentaire qui a été diffusé la semaine dernière.
Sur Arte, tout à fait.
Oui, en hommage à Dennis Hopper, voilà. Alors j'ai extrait, j'ai pas pris des extraits de ce documentaire, mais d'un autre sujet sur Dennis Hopper préparé par Arte. Et puis je parlerai de cet excellent film georgien, L'autre rive. Voilà.
Et quant à moi, eh bien, je vais vous parler aujourd'hui donc, de deux films, Prince of Persia, sorti mercredi dernier, et Infecté, également sorti la semaine dernière. Voilà, ça ce sera pour moi. Je vous ferai un petit topo également sur les événements, en particulier sur le festival des Éternels Télérama. Qui commence
aujourd'hui,
dès le 2 juin. Ça, ce sera en toute fin d'émission.
Et puis, il y aura aussi une soirée spéciale consacrée à Noam Chomsky, hein, qui était présent en France la semaine dernière. Et Noam Chomsky, qui sera à l'honneur du cinéma Utopia. Ce sera mardi, de la semaine prochaine.
Et on va commencer tout de suite avec ceci. Voilà, pour nos auditeurs fidèles, vous aurez reconnu un son que j'ai recyclé de la semaine dernière, puisque la semaine dernière, à l'occasion de la sortie en salle du film Prince of Persia de Mike Newell, j'étais revenu un petit peu sur ce jeu. Et j'avais aussi profité de cette occasion pour vous proposer un petit quiz dont la thématique était les films adaptés de jeux vidéo. Alors malheureusement, vu les connaissances approfondies de mon comparse Vincent en la matière, ce petit jeu avait rapidement fait long feu et une fois l'émission terminée, je m'étais fait copieusement passer à tabac par l'ensemble de l'équipe de Divergence FM pour avoir osé parler de Mila Jovovich et de la trilogie Resident Evil en direct.
Comme étant un très beau succès.
Voilà. J'en avais dit beaucoup de bien. Donc cette semaine, je vais un peu laisser tomber les quiz et les prises de risque et revenir sur cet immense chef-d'œuvre que nous a pondu le réalisateur de 4 mariages et un enterrement et d'Harry Potter et la coupe de feu. Alors comme chacun le sait, maintenant Prince of Persia est adapté d'une célèbre franchise de jeux vidéo inventée par Jordan Mechner, dont le premier volet est sorti en 1989. La petite musique qu'on a entendue juste avant que je démarre, c'était cette musique-là, sauf que à l'époque, elle était produite par le buzzer de l'ordinateur, le petit haut-parleur incorporé dans la tour, donc ça faisait un son beaucoup moins clean que ce que vous avez pu entendre. Donc aujourd'hui, la franchise comprend 6 autres épisodes et le film de Mike Newell adapte de façon assez libre le scénario de la 4e déclinaison des aventures du prince de Perse, celui du jeu Prince of Persia Les Sables du Temps qui a relancé la franchise en 2003. Alors dans le film, le jeune Dastan est un orphelin qui vit dans la rue quand il est remarqué par le roi de Perse et séduit par le courage et l'agilité du garçon, le roi va l'adopter. Donc quelques années plus tard, Dastan et ses frères prennent d'assaut une ville sainte qui garde en ses murs une dague magique dont le possesseur peut inverser le cours du temps. Donc une arme qui excite bien des convoitises et qui va se retrouver entre les mains de Dastan. Alors accusé à tort de l'assassinat de son père adoptif, le prince est contraint de fuir avec la belle gardienne de la dague pour tenter de faire éclater la vérité et de déjouer le complot. Alors disons-le d'emblée, ce film est très mauvais, comme on pouvait s'en douter. L'association entre les studios Disney et le producteur Jerry Bruckheimer, qui avait pourtant donné naissance à une franchise plutôt sympathique avec les 3 pirates des Caraïbes, eh bien cette fois-ci n'a pas réussi son coup. Le scénario de Prince of Persia est moins bien ficelé que celui du jeu vidéo dont il s'inspire, un comble. L'image est souvent laide à pleurer et côté spectacle, eh bien, on reste méchamment sur sa fin. Le déroulement de l'histoire est tellement prévisible qu'on attend avec une impatience de plus en plus molle les rares moments où la dague va intervenir dans le récit et bouleverser un petit peu la chronologie. Mais bon, à cet exercice pourtant pas bien périlleux, un film comme Next de Lee Tamahori s'en sort finalement mieux que le dernier rejeton de Mike Newell. Quant aux fameuses scènes de parcours qui ont fait le succès du jeu, eh bien on repassera aussi, puisqu'à part dans une ou deux séquences surdécoupées et cadrées sans imagination, les acrobaties du prince au cinéma sont loin de déclencher les mêmes émotions qu'on avait pu ressentir en contrôlant son avatar numérique. Alors nous assistons donc à un film raté qui n'arrive à aucun moment à transcender son récit, malgré les possibilités offertes par la thématique du voyage dans le temps. Les comédiens se débattent pendant plus de deux heures avec leurs personnages, caractérisés sans finesse, voire avec une grossièreté tellement caricaturale qu'elle en devient presque comique. Ben Kingsley, surmaquillé, n'arrive à aucun moment à être inquiétant. La princesse tête à claque, jouée par Gemma Arterton, fait une jolie potiche, mais ne semble pas vraiment sur la même longueur d'onde que son partenaire, ce qui fait que l'histoire d'amour ne prend pas à aucun moment. Un comble quand on sait qu'elle était déjà au cœur du premier Prince of Persia de 1989. Ensuite, Alfred Molina, en inévitable faire-valoir comique, amoureux de ses autruches, est particulièrement horripilant, au point qu'un des personnages secondaires anticipe les désirs des spectateurs et lui fait remarquer qu'il parle beaucoup trop. Et quant à Jack Gyllenhaal, donc l'ancien cow-boy avec une flèche en plein cœur du secret de Brokeback Mountain, eh bien il peine à convaincre en action hero et s'en sort finalement mieux dans les rares scènes d'émotion, malgré les biscottos qu'il a dû se sculpter pour jouer le rôle du prince. Donc voilà, Prince of Persia aurait pu être une énorme déception si j'avais eu la moindre petite attente en entrant dans la salle. Heureusement, ce n'était pas le cas. Et j'ai donc été simplement atterré de voir qu'avec 150 millions de dollars entre les mains, l'équipe de Boulay réunie par Mike Newell avait réussi à accoucher d'une photographie, de décors et d'effets spéciaux indigents. Donc à plusieurs moments, je me suis même demandé si la qualité déplorable des images ainsi que les nombreux problèmes de mise au point n'étaient pas finalement un hommage aux cinématiques grossières des jeux vidéo. Mais apparemment non. Les images en accéléré qui parasitent ponctuellement les scènes d'action ne semblent pas non plus pensées en termes de respect du jeu, mais plutôt conçues pour compenser la lourdeur et l'inefficacité de la mise en scène. Mais bon, à mon avis, le problème plus grave dans Prince of Persia, c'est que ce film correspond finalement à un cas typique de mauvaise adaptation de jeux vidéo au cinéma, alors qu'on a des productions comme Doom ou Silent Hill qui misent sur des éléments essentiels des jeux dont ils s'inspirent. Alors, dans Doom, c'est la séquence en caméra subjective et le côté outrancièrement bourrin. Dans Silent Hill, c'est l'atmosphère cauchemardesque et le récit qui se construit en long crescendo. Eh bien, Mike Newell a fait le choix de ne se servir du gameplay, du level design et de la narration particulière de Prince of Persia, le jeu, que comme des accessoires anecdotiques. Donc, il y avait pourtant matière à s'amuser avec cette dague qui permet de remonter le temps. Ne serait-ce que jouer avec la réussite des acrobaties du prince, on aurait bien aimé le voir rater la corniche, frôler la mort, remonter le temps et réessayer plusieurs fois. Mais non, les scénaristes ont préféré limiter les utilisations de la dague. On aurait aussi aimé qu'une partie importante du film soit consacrée au déplacement du prince dans des pièces labyrinthiques et ressentir à certains moments le vertige qui a pu nous étreindre pendant le jeu. Mais non, les séquences de parcours sont autrement plus excitantes dans Banlieue 13 ou dans Yamakasi. Donc voilà, passez votre chemin. Prince of Persia ne voit absolument pas le déplacement et ne remplit même pas son contrat de grand divertissement à effets spéciaux. Le seul mérite du film, finalement, comme ont pu le faire remarquer certains, c'est de donner envie aux spectateurs de se replonger dans le jeu vidéo pour oublier ce gâchis.
Voilà qui est fait. Et sinon, c'est projeté où, quand même, pour ceux qui veulent absolument...
Alors, pour les forcenés qui n'auraient pas été conquis par mon avis, c'est au Royal, au Multiplex, au Gaumont, etc. Vous le trouverez
un peu partout. Tu l'as vu en version originale sous-titrée au Royal ou...
Oui, j'ai longuement hésité avant d'aller en le voir en VO à Utopia, mais finalement, j'ai choisi la VF. Non, il ne passe bien sûr qu'en VF, ce type de film n'est pas distribué sur Montpellier en version originale. Je ne sais pas si ça aurait ajouté grand-chose de toute façon.
Non, j'imagine que non.
Je m'envoyais entre 28 et 38 bières par jour, 3 grammes de coke.
Alors, qui a déclaré cela, Martin ?
J'ai une petite idée. Il me semble que c'est un acteur américain récemment décédé.
Oui, c'est absolument ça. C'est Dennis Hopper, l'acteur et réalisateur qui a participé à plus de 150 films et en a réalisé 8 et qui est décédé donc ce samedi 29 mai à l'âge de 74 ans. Alors, pionnier d'une nouvelle vague hippie du cinéma américain, il était également un grand collectionneur d'art et un photographe plutôt reconnu. La Cinémathèque de Paris lui avait consacré à l'automne 2008 une rétrospective et avait aussi exposé une partie de ses œuvres. Alors, Dennis Hopper fait partie de ces gueules qui composent l'histoire du cinéma. C'est avec James Dean qu'il commence sa carrière cinématographique. Il tient ainsi un rôle dans La Fureur de Vivre en 1955 et un an plus tard dans Giant, soit géant en français, sorti en 56 de George Stevens grâce à un contrat avec la Warner.
Vous savez, j'avais joué Shakespeare dans un théâtre à San Diego depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans. Ensuite, je suis allé à Los Angeles parce que je voulais faire du cinéma. Le théâtre, ça m'ennuyait. Ça m'emmerdait de jouer sur scène devant un public. Je voulais faire du cinéma, mais à l'époque, c'était pas facile. Pour faire du cinéma, il fallait faire partie du syndicat des acteurs. Et pour faire partie du syndicat des acteurs, il fallait faire du cinéma. C'était comme un serpent qui se mordait la queue. Mais je m'en suis sorti, j'ai décroché un contrat chez la Warner. Il y avait à l'époque Nicolas Ray qui tournait La Fureur de Vivre. Donc on m'a permis de jouer dans ce film, avec la possibilité de jouer le fils dans Géant. Et après ça, donc George Stevens m'a mis dans Géant.
Alors ensuite, eh bien, il y a la mort de James Dean hein, et Dennis Hopper est affecté par cette mort. Il est mal dans sa peau et se montre imprévisible sur les tournages. Il joue dans quelques films, mais n'est plus trop apprécié à Hollywood et se consacre à la photographie. Mais en 69, en pleine guerre du Vietnam, il réalise son premier long métrage, Easy Rider, qui marque une étape importante pour le cinéma hollywoodien. Inspiré par les nouvelles vagues ou le néo-réalisme italien, c'en est fini de la production classique et la toute-puissance des studios. Easy Rider, produit par Peter Fonda, qui joue aux côtés de Hopper et du jeune Jack Nicholson, est un road movie hippie en bécane ronflante où le pacifisme des bandes hippies s'oppose à une Amérique raciste, rétrograde et conservatrice.
I directed Easy Rider when I... J'avais 31 ans quand j'ai réalisé Easy Rider. À l'époque, je voulais gagner la Palme d'Or à Cannes. J'ai pas eu la Palme, j'ai eu le prix de la meilleure première œuvre. Mais j'avais également une autre ambition. Je voulais en faire un film vintage, un film qui prenne de la musique extérieure à un film, parce que à l'époque, il y avait toujours une bande originale qui était écrite pour les films. On ne se servait jamais de musique qui existait déjà. Donc il n'y a pas de bande originale pour Easy Rider. Ce n'est que de la musique qui existait déjà. Et c'est ça d'ailleurs le récit musical du film. Vous avez Bon Wild, Pusher Man, Six Plus Nine, Jimi Hendrix et tout ça. Alors à l'époque, il n'y avait pas besoin de verser des royalties. On allait voir l'artiste, on lui demandait la permission d'utiliser sa musique. Alors je suis allé voir Bob Dylan pour lui demander: est-ce que je peux utiliser The Times Are Changing? D'accord, qu'il a dit. On allait voir les différents artistes, leur demander l'autorisation d'utiliser leur musique. Alors maintenant, c'est beaucoup plus coûteux de faire ça que d'écrire une bande originale.
Ah, le temps béni où on pouvait faire un film avec la simple autorisation de reproduction. Eh bien maintenant, tout se passe non pas avec les artistes, mais avec les maisons de disques qui font cracher. Et à ce petit jeu, certains artistes peuvent s'acheter des piscines en or massif. Alors Hopper écrit et réalise d'autres films comme The Last Movie en 1971. Alors Universal, qui l'avait financé près d'un million de dollars quand même, et avait laissé à Hopper le Final Cut, refuse de le distribuer et de tirer des copies. Et en contrepartie, eh bien, on abandonne à Dennis Hopper tous les droits. Hopper en fait tirer quelques rares copies, mais c'est un échec commercial, tout simplement parce que le film est très très radical. Alors, il ne refera plus de films avant les années 80. On peut se souvenir de Colors en 1988 sur les gangs de Los Angeles, avec sa bande-son hip-hop. Et puis, il continuera en revanche, pendant les années 70, à tourner pour Hollywood, Apocalypse Now de Coppola, et pour les Européens, comme avec Wim Wenders en 77 pour ce film L'Ami Américain. Pendant cette période et jusqu'au début des années 80, il sombre dans l'alcool et la drogue. Mais il finit par s'en sortir hein, de cette drogue et de cet alcool intensif avec une bonne cure. Et sa carrière redécolle grâce à ses rôles de méchant. Alors il est terroriste psychopathe dans Speed, le diacre dans Waterworld ou Koopa dans Super Mario Bros. Il est méchant, Dennis Hopper. Alors il y a comme ça des acteurs qui finissent par coller à un type de personnage. Alors bien avant 86, il interprète il interprète Frank dans l'excellent Blue Velvet de David Lynch, et c'est cet extrait qu'on va écouter maintenant.
Qui c'est, cet enfoiré ?
Un ami. C'est un voisin. On bavardait. Ah.
T'es son petit voisin.
Oui.
Un jeune voisin. Comment tu t'appelles, voisin ?
Jeffrey. Il est gentil, Frank.
Ferme ta gueule, salope ! Hein, on va faire une balade ?
Non, merci. Quoi, non, merci. J'ai pas envie.
De quoi ?
De faire une balade.
Une balade ? Ah, quelle bonne idée. Allez, en route. Allez, en route, je t'ai dit ! Mets ta putain de robe, salope ! Raymond, amène-toi, on t'emmène en virée.
Chouette, une virée.
Il est comme ça, Franck, hein, ultra-violent, dopé à l'oxygène, dont il prend des bouffées avec un masque, opposé au gentil voisin interprété par Kyle MacLachlan, acteur fétiche de Lynch. Allez, on va cette fois-ci chez le suave Ben.
Allons-y. Je vais te présenter un de mes amis. Raymond, t'as assez de bière pour Ben, hein ? C'est quoi ta bière préférée ?
La Heineken.
Heineken ! C'est de la merde ! Paps, voilà de la bière ! Coucou, j'amène des copains, je fournis la bière. Comment vas-tu, Franck ? Ça va ? Ça va. Oh, Franck, voilà une bonne surprise. Et tu as amené tes amis. J'adore les surprises. Prends un siège. Quelle suavité, tu es un garçon rare, tu sais, tu es une sorte de miracle. Tu veux une bière ? Avec joie, Franck. Darling. Darling, tu nous apportes des verres. Je veux boire une bière avec Franck. Fais vite, mais asseyez-vous donc.
Cher Ben, ça va chez toi ?
Bien, très très bien. Et chez vous ?
Foutrement bien. Foutrement bien. Je compte sur toi pour tout.
Vivant aujourd'hui.
Mort demain.
Tu me fais pas peur à moi. Moi c'est Paul, c'est quoi ton nom ?
C'est vrai ?
Où sont les verres ? La bière va être chaude. Putain, je supporte pas la bière chaude. Merde, moi, ça me fait gerber partout.
Allons, ça va, darling. Où sont les verres ? Tiens, Franck, les voilà, les verres. Tu vois, voilà les verres.
Raymond, où est-ce que t'as foutu la bière ? Merde !
La voilà, Franck. Tu veux que je verse ?
Non, je veux que tu te la foutes aux fesses. Bien sûr, connard, tiens-moi cette bière.
Merci.
Avale ça.
Alors, à ta santé, Franck.
Oh, tu peux trouver mieux que ça. Buvons à la baise. Y'a qu'à dire, je bois à ta baise, Franck.
Comme tu voudras. Buvons à ta baise. Gin.
Ah, ça c'est suave, merde. T'es toujours foutrement suave. Hein, qu'on l'aime, Ben ?
Oui, on aime Ben.
À la santé de Ben !
Oui, santé, Ben.
Mais il boit pas ce petit con ! À la santé de Ben !
À la santé de Ben.
Sois poli, hein !
À la santé de Ben.
Ben, t'as vu ça ?
Je lui fais faire tout ce que je veux à ce petit con. Merci d'avoir bu à ma santé. Vous êtes un très gentil garçon. Est-ce qu'il vous a fait mal ? Voilà, ça va mieux.
Elle est bonne. Tu te sens mieux.
Franck, j'ai quelque chose pour toi. Voudriez-vous nous excuser un moment, s'il vous plaît?
Qu'il est suave ce Ben, et juste après, hein, dans cette séquence, il interprète une chanson de Roy Orbison qui met dans tous ses états Dennis Hopper complètement fou dans ce film, hein, on le voit,
il est complètement hystérique,
shooté à l'oxygène comme je l'ai dit, et eh bien, il tient dans ses griffes Isabella Rossellini, voilà, qui chante cette chanson Blue Velvet qui donne le titre au film. Un film énorme de David Lynch, donc sorti en 86 et disponible évidemment en DVD si vous ne l'avez jamais vu. Je vous le conseille fortement, d'autant qu'en VO, c'est bien plus intéressant. Mais pour vous, chers auditeurs, et vous faire comprendre de quoi il s'agissait, j'ai préféré la VF.
Et c'est un des films les moins abscons, j'ai envie de dire, de David Lynch aussi. C'est un des films les plus compréhensibles.
Avec ses Laure et Lula.
Avec ses Laure et Lula. Ouais, et Dune. Ils sont vraiment des... Oui, Dune est quand même assez difficile à comprendre. Peut-être pas pour les mêmes raisons que Lost Highway et Mulholland Drive, mais voilà, c'est un film noir... assez classique, même s'il y a toujours cette folie de Lynch qu'on retrouve.
Oui, il y a quelque chose de mystérieux, hein, puisqu'on, je crois que c'est une oreille coupée. On part d'une oreille coupée dans le gazon. Hein. Oui. Donc, voilà, bien, Dennis Hopper interprétait ce méchant. Il en a interprété encore bien d'autres rôles dans plusieurs films à cette époque. Alors, dans le genre, c'est étrange, mais c'est comme ça. Celui qui nous donnait le premier grand film de la contre-culture américaine avec Easy Rider s'est engagé longtemps auprès du Parti républicain. Reagan, Bush père, Bush fils, et oui, Bush fils, il les a tous soutenus, contrairement à son pote Sean Penn. Il a quand même avoué qu'il voterait Obama, donc il a dû voter Obama parce que les mensonges de Bush fils, c'était quand même pas du bout. Alors, à noter que les extraits ont été tirés d'une émission d'Arte à l'occasion d'une rétro à la Cinémathèque en 2008, et que cette émission, c'est très court, hein, est visible sur le site. Et puis, ce qu'il disait sur sa drogue et son accoutumance a été tiré de cette émission que tu as vue aussi sur
Arte.
Oui, bah,
hein. Qui retraçait un petit peu le parcours de Dennis Hopper, donc depuis plus ou moins ses débuts chez Corman, entre autres, jusqu'à sa consécration plus ou moins en tant que collectionneur d'art et peintre et photographe sur une expo qui avait lieu, je crois, en Allemagne ou à Vienne.
Berlin, probablement à Berlin.
Ou à Berlin, je ne sais
plus.
Je crois
qu'il était...
Mais voilà, qu'il a fini un peu comme les expos que font la Fondation Cartier à Paris, sont dédiées à des cinéastes ou à des personnalités du cinéma. Là, il avait une expo consacrée à sa collection assez particulière d'œuvres d'art. Entre autres, il a rencontré Basquiat et Warhol.
Enfin, Warhol, bon. Oui.
Donc, il a vraiment traversé cette période en prélevant des petites perles à chaque fois pour enrichir sa collection. Non, Dennis Hopper, c'est vraiment un très grand comédien, même si c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il s'est retrouvé à ne plus jouer que des méchants.
Et puis dans Super Mario Bros, quand même.
Dans Super Mario Bros, entre autres, mais également dans l'immense Waterworld et dans Speed.
Et dans Speed.
Donc voilà, voilà, mais il a réalisé aussi plusieurs films. Moi, j'avais vu Colors.
J'ai pas vu Easy Rider,
mais j'avais vu Colors, qui était un petit film policier, un buddy movie assez sympathique avec le jeune Sean Penn, justement.
Qui lui a rendu l'appareil, Sean Penn, pour son film Indian Runner, voilà. Il a joué un rôle aussi dans le film de Sean Penn. Je crois qu'il s'appréciait.
Ah, il s'appréciait beaucoup.
Ce qui est assez étrange, hein, parce que l'un est républicain, effectivement, et Sean Penn est plutôt engagé démocrate, voire plus radical encore.
Mais au point que Sean Penn a appelé un de ses fils Hopper Jack, en hommage à ses deux amis, donc Dennis Hopper et Jack Nicholson. Jack Nicholson qui avait joué chez Sean Penn dans plusieurs de ses films.
Alors, dans une précédente émission à Cinérama, tu parlais de ces bandes originales qui étaient quasiment exclusivement composées d'ajouts extérieurs, donc de chansons déjà existantes. Tu trouvais pas trop d'exemples. Et en fait, là, c'en est un avec Dennis Hopper, puisqu'à chaque fois qu'il a fait des films, il n'a jamais fait de bande originale.
D'accord. Voilà. Un peu à la Tarantino, qui lui compile aussi plein de morceaux.
C'est exactement la même recette. Et Easy Rider était donc le premier film avec des musiques, je crois on dit exactement additionnelles. Voilà. Et on va en écouter une, justement. C'est sans doute la plus connue. Ça a fait connaître ce groupe, Steppenwolf. Voilà. que tu dois bien connaître, Martin, parce que je crois que tu es adepte du heavy metal.
Non, je suis plus Anvil, Metallica, tout ça. Non, je connais pas, je connais ce
titre. Je t'ai vu passer un ACDC lors d'une soirée à 5h du matin, il me semblait.
C'est vrai, j'en ai même passé dans cette émission du ACDC.
Effectivement. Donc, nous allons écouter cette chanson qui fait l'ouverture, hein, carrément, de Easy Rider.
Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, in whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of the guns at once and explode into space.
Le groupe canadien Steppenwolf avec un grand morceau qui a été repris maintes fois. J'ai voulu chercher des petites versions, des petites reprises un peu amusantes, mais ce sera pour une prochaine émission. C'était Born to be Wild, donc extrait de la bande originale du film Easy Rider, avec des motos complètement customisées, beaucoup de paysages américains. Enfin, c'était ça, hein. C'était vraiment le film hippie par excellence et qui mettait en avant la liberté contre... contre une espèce de ronronnement de la société américaine. Et puis, au niveau cinématographique, ils se sont inspirés d'un film de Rossellini, je crois. Alors, c'était peut-être pas Rome, ville ouverte, mais c'en était un autre. Et donc, c'était vraiment un nouvel envol pour les productions hollywoodiennes. Ce qui ensuite a donné son... Enfin, je connais mal mon histoire du cinéma américain. Il faudrait que Bertrand Tavernier soit là dans nos studios. Mais je crois que ça a donné ensuite le goût à pas mal de gens de faire des films avec moins de moyens que les grands studios et du coup avec une belle réussite. Et ce qui donne maintenant le cinéma indépendant américain.
Juste pour en terminer avec Dennis Hopper, moi je voulais juste signaler, si vous voulez vous plonger un peu plus en détail dans le dans l'aventure Apocalypse Now, et en particulier donc sur Dennis Hopper et ses problèmes de drogue et d'alcool à l'époque, je vous conseille le documentaire Art of Darkness. Donc une sorte de making-of qui revient un peu sur le tournage d'Apocalypse Now, sur la mégalomanie de Coppola, les problèmes de cœur de Martin Sheen, etc. Et mégalomanie aussi de Marlon Brando. Donc voilà, Art of Darkness, le making-of d'Apocalypse Now. Et on va passer à autre chose. Alors, ce qu'il y a bien avec le cinéma, c'est qu'à intervalles réguliers, moi, je peux recycler dans Cinérama la même vieille chronique spéciale film de zombies qui décortique l'évolution du genre à travers les âges, donc de Michael Curtis en 1936 avec Le mort qui marche, jusqu'à Bienvenue à Zombieland de Ruben Fleischer, sorti en novembre dernier. C'est assez pratique quand on n'a pas grand-chose à raconter sur le dernier mauvais film de mort-vivant qu'on s'est infligé en prévision de la prochaine émission. Alors malheureusement, aujourd'hui, je vais être obligé de laisser dans les cartons cette chronique déjà utilisée de nombreuses fois sur ces ondes, puisque le film dont je vais vous parler n'est pas un film de zombies. Alors pourquoi une telle introduction, me direz-vous ? Eh bien déjà parce que ça m'a permis de vous faire visiter un petit peu les coulisses de l'émission, voilà, de vous faire découvrir comment se construit Cinérama, lever une partie du mystère qui entoure cette émission depuis 3 saisons maintenant. Et ensuite, parce que eh bien, si je ne vous parlerai pas de zombies cette fois-ci, je vais en revanche m'intéresser aux infectés, leurs petits cousins purulents et tout aussi répugnants qui, depuis quelques années, ont droit à leur propre sous-genre cinématographique. Alors dans la tradition, instaurée par George Romero en 1968 avec La Nuit des Morts Vivants, les créatures cannibales qui peuplent les films de zombies sont mortes, et bien mortes. Même coupées en deux ou criblées de balles, elles continuent à ramper vers leur future victime en râlant. Donc un postulat fantastique qui peut éventuellement nuire à l'horreur, le réalisme étant plus propice à provoquer des sueurs froides chez les spectateurs, même les plus cartésiens, qui n'ont alors pas la possibilité de se dire que ce qu'ils voient à l'écran ne peut pas exister. En plus, les morts-vivants étant morts, leur tonicité n'est pas vraiment au top. La rigidité cadavérique et la putréfaction qui les gagnent progressivement en font des monstres plutôt lents et maladroits. Donc, si Romero a su utiliser cette lenteur pour faire naître l'épouvante dans les années 60 et 70, le tour de force de terroriser le public moderne, biberonné au montage cut et à l'hystérie visuelle depuis sa plus tendre enfance, eh bien, ce tour de force s'avère un peu plus compliqué à mettre en place. Mais le maître lui-même avait prévu le coup, et en 1973 avec The Crazies, qui était superbement traduit en français par La Nuit des Fous Vivants, eh bien Romero imagine une autre forme d'apocalypse où la menace vient non plus de la résurrection des morts, mais d'un virus qui rend ses porteurs enragés et ultra-violents. Donc 30 ans avant Danny Boyle, Romero inventait le film d'infecté. Quelques années plus tard, c'est David Cronenberg qui s'essaye au genre avec Rage, qui sort en 1977 et dans lequel une jeune femme qui a subi une opération chirurgicale développe un appétit insatiable de sang et propage la rage. Alors en 2002, Danny Boyle et son acolyte Alex Garland remettent au goût du jour le film de Contamination avec 28 jours plus tard, dans lequel la Grande-Bretagne est ravagée par une épidémie qui transforme les gens en fous sanguinaires. Et depuis, le sous-genre du film d'infecté a fait copieusement parler de lui avec des œuvres pas toujours très recommandables, comme les Resident Evil, Mutant ou Je suis une légende, mais aussi avec de vraies réussites comme Rec, 28 semaines plus tard, ou Planète Terror. Alors mercredi dernier est sorti en salle un nouveau film d'infecté, le bien nommé Infecté, des frères Alex et David Pastor. Encore une fois, l'humanité est frappée par un fléau viral et la quasi-totalité de la population succombe à cette copine de la grippe A qui se transmet par simple contact et qui peut survivre à l'air libre pendant plusieurs heures. Donc nous suivons 4 personnages, 2 frères, la petite amie de l'un d'eux et une camarade de fac de l'autre qui parcourent les routes dans le but d'atteindre un refuge illusoire au bord de l'océan. Si le scénario d'Infecté est cousu de fil blanc et compile un certain nombre de poncifs du genre, on peut quand même noter une certaine originalité par rapport à ses prédécesseurs. Dans le film des frères Pastor, ce ne sont pas les contaminés qui représentent la menace principale. Le virus ne transforme pas les gens en créatures assoiffées de sang qui pourchassent les héros. Non, la véritable menace, c'est de façon assez logique la maladie elle-même. Donc un ennemi invisible et contre lequel il n'existe aucun remède. Donc une fois atteint par le virus, le porteur va progressivement dépérir jusqu'à ce qu'il meure et non pas devenir complètement enragé. Avec leur scénario, les frères Pastor s'écartent un peu du schéma classique de films de siège auquel on peut rattacher la quasi-totalité des films de zombies ou d'infectés pour s'orienter plus vers le road movie dans la veine de Bienvenue à Zombieland, sauf qu'ici, bien sûr, pas la moindre trace de comédie à l'horizon, seulement un désespoir qui évoque rapidement un autre film post-apocalyptique récent, La Route. Donc en adaptant le roman de McCarthy, John Hillcoat avait donné sa propre vision du post-nuke, un lendemain de cendres, non pas punk et libertaire comme dans Mad Max 2 ou Le Livre d'Eli, mais plutôt nostalgique et intime. La Route nous plongeait dans le quotidien d'un père et de son fils qui tentaient de survivre dans un monde ravagé où les hommes revenus quasiment à l'état sauvage luttaient sans état d'âme pour une boîte de conserve ou quelques vêtements. Et les pastors évoluent dans ce même registre, celui du regard entomologique sur l'évolution des rapports sociaux, une fois que la civilisation et les règles morales qui régissent l'humanité se sont désintégrées. Donc les relations entre les personnages sont ici au centre de tout, celle entre les deux frères bien sûr, mais également celle entre un père et sa fille qu'il sait condamner, celle entre un médecin qui ne se résout pas à abandonner ses patients, et ses patients, et celle entre les différents groupes de survivants de façon plus générale. Voilà. Les relations sont vraiment centrales dans le film des frères Pastor. Le problème, c'est que ces thématiques ont déjà été explorées en long, en large et en travers. Dans les films de zombies, il y a toujours un moment où un personnage est mordu et cache son état pour ne pas se faire abattre. Il y a toujours un moment où certains survivants ne veulent pas exécuter un de leurs amis contaminés, et ce déjà chez Romero. Donc Infecté vient simplement ajouter de l'eau au moulin du pessimisme qui veut qu'en cas de catastrophe, chacun doit d'abord penser à sa sécurité, même s'il doit sacrifier ceux à qui il tient le plus. Donc le film commence sur les chapeaux de roue, au sens propre du terme. On découvre les principaux protagonistes à 180 km/h dans une voiture volée. L'ambiance est plutôt décontractée, même si on sent bien que quelque chose cloche. Et quelques minutes plus tard, c'est la première rencontre. Donc une rencontre qui fait monter la pression et qui révèle en quelques plans les causes du malaise qu'on sentait simplement poindre jusqu'alors. Donc dans l'ensemble, la première moitié d'Infecté s'avère plutôt efficace. Les ressorts de l'action sont rapidement identifiés. Mais après 45 minutes environ et l'abandon déchirant d'un couple de personnages, le film prend un tournant plus conventionnel et se révèle moins intéressant. Les schémas présentés dans la première partie se reproduisent, les scènes se succèdent de façon attendue et l'évolution des personnages s'avère malheureusement bien trop prévisible. Reste que pour leur premier long métrage, les réalisateurs ont fait appel à une équipe chevronnée qui comprend entre autres le chef opérateur Benoît Déby, dont on avait pu admirer le travail sur Calvaire et Vignan de Fabrice Duvels, ou encore récemment sur Enter the Void de Gaspard Noé. Donc la photographie est particulièrement somptueuse, les grands espaces ensoleillés sont utilisés pour faire naître l'angoisse, là où c'est habituellement l'obscurité qui est utilisée dans les films d'épouvante. Donc voilà, Infecté ne révolutionne pas vraiment le genre, même s'il contient certaines scènes marquantes, en particulier dans sa première partie. Il bénéficie par ailleurs d'un casting hétéroclite qui donne corps de façon assez convaincante au personnage, mais les dialogues sont sans saveur particulière. Voilà, des dialogues encore plus gâchés par la VF, version dans laquelle nous l'avons vu. Donc voilà, un petit film qui devrait décevoir les inconditionnels du genre à cause d'énormément de recyclage, de choses qu'on a déjà vues dans d'autres films, mais qui pourrait éventuellement séduire les néophytes.
Alors oui, moi je l'ai vu avec toi donc hier. Je trouve pas que ce soit un mauvais film en fait. Enfin, comme tu l'as dit, c'est assez conventionnel, assez convenu. Il y a des choses qu'on attend et qui finalement se déroulent. Après, la lumière effectivement est assez étonnante. Tout se passe quasiment en plein jour ou enfin on n'est jamais dans l'obscurité. Après ça n'a pas la saveur de The Road. Enfin, La Route, oui, effectivement, oui, que tu as cité. Enfin, qui est vraiment pour moi le film apocalyptique de référence ces derniers temps. Et puis, alors tu l'as comparé à Rec, effectivement, on pourrait le comparer à Rec, mais Rec, c'est déjà formellement un peu plus fort avec caméra subjective, voilà, enfermement, et ainsi de suite.
Plus les infectés ultra-violents qui rajoutent du dynamisme, forcément, du suspense.
Après c'est plutôt dans le scénario, moi, que j'ai trouvé que ça pêchait un peu avec cette histoire des deux frères. Est-ce que c'était bien utile de... Parce que c'est le ressort un peu émotionnel. On commence avec des images d'archives de ces deux frères. Et donc, ils sont sur la plage et ils vont rejoindre cette plage, en fait, où ils espèrent être tranquilles parce que, voilà, parce qu'ils ont vécu des choses énormes à ce moment-là. Ils étaient sans doute protégés quand ils vivaient ces instants-là. Donc, en cas de fin du monde, on retourne peut-être là où on s'est senti bien. Et voilà, donc après, ils ont inventé ça pour donner un but à ces personnages, alors que les buts auraient pu être complètement différents. Et on aurait pu imaginer eh bien, que ce ne soit pas forcément des frères. Alors après, il y a aussi des relations entre copains-copines et entre frères, entre frangins, voilà. Et on voit par contre, ça, j'ai trouvé ça assez bien, on voit vers quoi vont les priorités, hein,
oui.
Très clairement. Ouais. Voilà, il est plus facile d'abandonner sa copine que d'abandonner son frère.
Oui,
même notamment. Si... Mais voilà, mais c'est un film qui se laisse regarder, mais qui est, voilà, enfin qui est peut-être pas.
Moi, j'ai vraiment trouvé, ouais, il y a cette rupture là où la première partie, donc avec aussi le père et sa fille qui rejoignent un peu le groupe. Je trouvais que c'était, ça rajoutait, voilà, d'autres types de relations que uniquement entre frangins ou copains copines. Il y avait un côté peut-être un peu plus émotionnel aussi là-dedans. Et bah, jusqu'à leur arrivée dans cet éventuel dernier bastion où on aurait développé un vaccin, etc. Après, le film bascule un petit peu et on retombe sur des... Pour le coup, sur des poncifs un petit peu du genre. Quoi.
Et puis là, c'est pas du tout la même ambiance que dans La Route, parce que dans La Route, le père et le fils sont dans une espèce de no man's land où il y a vraiment plus rien à manger. Là, il reste des choses à manger, mais on les voit rarement manger. Par contre, j'ai trouvé ça assez étonnant. Mais ils pensent à s'amuser. C'est-à-dire, effectivement, ils volent une voiture. Enfin voilà, il y a tous ces biens de consommation qui sont là. À un moment, ils arrivent dans un golf complètement abandonné, et puis là, ils s'amusent à faire du golf comme des cons, comme s'ils avaient le temps. Enfin, je veux dire. Et pourtant, tout le monde est affecté. Mais ouais. Ils prennent le temps de s'amuser. Voilà.
Ouais, ça, c'est quelque chose
il y a ce côté un peu léger.
Ça, c'est quelque chose qui, déjà dans le zombie de Romero, on peut le retrouver dans le zombie de Romero avec ce groupe de survivants qui se réfugient dans un supermarché et qui, donc, avec tous ces biens qui sont à leur disposition,
retrouvent la pulsion de consommation.
Exactement, et se font des ventrées, se font des orgies. Etc. Donc, mais il y a ça aussi dans Bienvenue à Zombieland, avec ce personnage un peu frappé qui cherche à tout prix à retrouver un dernier Twinkie, une pâtisserie, une sorte de bar, un peu comme les Mars ici, mais un beignet américain. Donc voilà, il y a ce côté un peu, on profite de la fin du monde aussi pour s'amuser, pour faire tout ce qu'on n'avait pas pu faire jusque-là.
Mais oui. Et après, bon, parmi les deux frères, donc il y en a un qui est très impulsif, l'autre qui est plutôt intellectuel, qui se fait traiter d'intellectuel tout le temps. Alors, si vous allez voir le film, vous verrez bien lequel s'en sort. Mais j'ai trouvé ça assez, peut-être pas si bien traité que ça, ce rapport entre les deux frères, entre donc, la tête, la tronche et puis les muscles.
Et les gros bras, oui, non, c'est un peu caricatural. C'est... Ouais, voilà. Bah même l'ensemble des relations entre les personnages sont caricaturales parce que, et d'une, on les a déjà vues dans d'autres films, et de deux, elles sont traitées, voilà, sur le film fait une heure et demie à peu près, donc il n'y a pas non plus de quoi approfondir énormément les relations. Avant de passer à la suite et de te laisser parler de ce petit film géorgien, je vous propose d'écouter, alors pas un extrait de la bande originale de Infecté, puisque je n'en ai pas trouvé, un extrait de la bande originale de 28 jours plus tard. finalement, je dois bien être un petit peu fan de métal. J'ai raison.
Effectivement.
Donc voilà un extrait de la bande originale de 28 jours plus tard, composé par John Murphy.
Donc Infecté n'est seulement projeté qu'au Gaumont Multiplex, très peu de copies pour ce film, qui n'est pas... si, pourtant c'est un film de studio,
c'est
mais bon.
Paramount, enfin ouais, c'est le côté indépendant de Paramount. Mais c'est vrai qu'il y a une toute petite distribution uniquement en VF, bien sûr.
Alors, je sais que normalement on a clos le débat, mais tu as parlé d'un film de Cronenberg, c'était...
Rage.
Rage, avec donc cette femme effectivement qui est... qui est victime d'un accident, qui va dans une clinique ultra-moderne, à qui on inocule un virus.
Une greffe de peau, ou je sais
oui,
plus.
Oui, je sais plus. Et après, elle se transforme, hein, comme souvent c'est le cas chez Cronenberg. Mais derrière ce film, enfin, je trouvais qu'il y avait un traitement, même sous ses airs de film de cinéma bis, il y avait un traitement sur la société. La société, bah, pareil, qui a des tabous et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de dérèglement sexuel, enfin qui s'opère dans ce film de Cronenberg. Alors que là, enfin voilà, on est moins dans ce registre où finalement on parle de la société. On parle effectivement des dérèglements quand il se passe plus rien. Enfin je veux dire, mais enfin voilà, parce que là il y a plus d'ordre, il y a plus, oui, y a plus rien hein, dans Infecté. Mais même ça, c'est un peu absent. Je sais pas. Je trouve qu'il y a voilà.
C'est vrai que oui.
C'est un peu simpliste. Voilà.
Bah, souvent, les films comme ça, apocalyptiques, ils sont là pour faire passer un peu une peur de la société en général. À l'époque à laquelle ils sont faits, la nuit des morts-vivants, c'était la guerre froide, plus ou moins, qui était en pleine période de la guerre froide. Rage, je sais pas, mais ça devait tomber un peu au moment de l'explosion du sida également.
Non, c'était avant, non. Oh non, c'était, je pense que c'était avant, parce que c'était avant 80, Rage.
C'est 77,
oui. Oui, voilà.
Mais bon, ça fait... C'est pareil, aujourd'hui, on a beaucoup de films d'infectés, on a beaucoup d'épidémies qui grippe aviaire, grippe A, etc., une sorte de psychose là-dessus. Et on retrouve un peu dans ces films apocalyptiques cette volonté de traduire l'anxiété de la société. C'est vrai que ce que tu dis, il n'y a pas vraiment de comparaison avec le monde réel dans Infecté. Il y a un peu ces... Bah, comme je disais, un regard un peu scientifique, anthropologique sur l'homme, mais il pourrait ne pas y avoir d'infection et ça pourrait être un autre cadre complètement différent. C'est vrai que ça manque un petit peu de profondeur aussi au niveau du discours. Ouais.
Voilà, mais j'ai vu dernièrement d'ailleurs, Je suis une légende hein, avec Will Smith qui traite à peu près des mêmes choses, sauf que là effectivement ils sont méchants puisqu'ils sortent la nuit et ils sont vraiment assoiffés de sang. Et pour les infecter, dans Je suis une légende, il faut vraiment que tous les vivants y passent, quoi. Et tous les êtres vivants. Enfin, c'était voilà. Mais je trouve Presque Infecté bien mieux. Enfin voilà, bien mieux réussi parce que justement, on cherche pas forcément à nous faire peur et on parle aussi d'autres choses. Nous allons changer de sujet, mais alors là, totalement, pour retrouver un film géorgien. L'autre rive est le premier long-métrage de Giorgio Ovashvili, un réalisateur donc géorgien, cinéma géorgien qu'on connaît mal si on ne va pas de temps en temps dans les festivals dédiés au cinéma minoritaire. Alors parmi les géorgiens, il y aurait bien Otar Yoseliani, mais ce dernier a réalisé ses films en France, donc pas de bol. C'est un premier film et ça se voit pas tant que ça, tant il y a de la maîtrise. Alors tout d'abord... Eh bien, dans le scénario, nous suivons le jeune Tedo, 12 ans, qui vit avec sa jeune mère. Alors, tous deux sont des réfugiés géorgiens dans leur propre pays. Ils habitaient, en fait, auparavant l'Abkhazie, petite province qui a demandé son indépendance et qui l'a obtenue suite à la pression russe lors de la guerre d'Ossétie du Sud. C'était en 2008. Alors, on est donc là dans une fiction qui nous parle de l'histoire géorgienne, mais sans qu'on sache précisément quoi que ce soit sur le conflit. Il y a les réfugiés qui n'ont rien, et puis il y a les autres. Alors, les deux vivent à Tbilissi, la capitale géorgienne. La mère, encore jeune, se prostitue. Tedo, lui, donne un coup de main dans un garage, mais finit par trouver ça insupportable. Et finit par trouver insupportable le sort de sa mère et tente en faisant des arnaques avec un autre réfugié bien de faire grimper le budget familial pour que sa mère cesse d'être un objet sexuel. Alors comme c'est une fiction et qu'il n'y a pas de raison qu'on soit en marge de la réalité non plus, les affaires tournent mal et Tedo quitte la capitale géorgienne pour l'Abkhazie où est resté son père. Commence alors un road movie où le jeune Tedo n'a qu'un but, passer sur l'autre rive, car oui, les deux pays sont frontaliers de la mer Noire, qui au passage n'est pas si noire que ça. Le scénario porte donc sur l'arrachement entre deux pays qui ne formaient qu'un, et un autre arrachement, celui de son père et de sa mère. Alors pour tout dire, avec ces histoires de frontières, de rives d'indépendance, il est seul, Tedo, et il est de tous les plans, mal sapé, mais là-bas on ne suit pas les canons de la mode. Il a aussi un détail physique important, il a un strabisme, comme pour souligner un peu plus sa situation. Alors ce scénario est idéal pour nous faire rencontrer des personnages tout au long de son voyage, des mains tendues, de la bêtise, de la cruauté, et puis aussi finalement de l'hospitalité. Alors son regard qui louche est celui de l'innocence, même si c'est avant tout un enfant, c'est surtout un Géorgien qui arrive dans une région qui a une autre langue et où les Russes en prennent pour leur grade. Car l'autre talent du réalisateur, au-delà du scénario simple sans embrouille, c'est qu'il nous montre de son pays, de sa région. Alors les Russes, on ne les voit qu'une fois, mais on comprend assez vite que leur présence est une vraie plaie. Il n'y a pas de misérabilisme dans l'autre rive, on n'est jamais dans le pathos, on est dans l'innocence donc de ce petit garçon qui avance pour se trouver une place, un père à défaut d'une mère. Le rythme est bon, peut-être parce que c'est un road movie et que le petit avance. Il n'y a rien de manichéen ni méchant, à part peut-être donc ces Russe, presque anecdotique dans le film, ni gentil, seulement des hommes et des femmes d'une culture qui n'est pas la nôtre, qui ont vécu une histoire faite de séparation et de violence, et qui entretiennent cette histoire avec la rancœur habituelle. Alors les Géorgiens pensent que les Abkhazes sont des êtres cruels, les Abkhazes exècrent les Géorgiens. Le gamin, lui, se joue des frontières, se joue de ce monde adulte où la rancune est tenace et son strabisme lui va bien. La question posée par ce scénario de l'autre rive, c'est « va-t-il retrouver son père ?» vous le saurez en allant voir cet excellent film du Géorgien Giorgio Ovashvili. Donc ça s'intitule « L'autre rive ». Ça passe encore pour une semaine au cinéma Diagonal en version originale sous-titrée. Alors à noter que moi, j'étais un peu perdu dans les accents entre le Géorgien... et puis l'Abkhaze, je pense que c'était ça, la langue. Enfin voilà, j'étais un peu perdu. Mais il est question aussi de ça, puisqu'au bout d'un moment, on demande au petit, si tu vas en Abkhazie, surtout fais-toi passer pour un muet. Parce que s'ils découvrent que tu parles le géorgien, alors à ce moment-là, ils vont te faire du mal. Ils vont jouer avec, ils vont couper ta tête, ils vont jouer avec ta tête au ballon, enfin au football. Voilà ce qu'on raconte en Géorgie pour faire peur aux enfants. On écoute un petit extrait de la bande-annonce, pour avoir une petite idée de l'atmosphère.
Bere daete yak share ginashe chema
Parma chemu de chamu upan
Kes vivijo
Shanam skenatsle Swarnami srebli dagi khuravi
Voilà, on était dans plusieurs ambiances, ce film est vraiment comme ça. Je le recommande vraiment parce qu'on peut penser parfois que le cinéma d'arrêt d'essai est un peu ennuyeux, pompeux. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Et c'est une très très belle réussite. Il n'y a vraiment aucun accroc pour ce film. Donc de Giorgio Ovashvili, L'autre rive. On passe aux événements pour terminer Cinérama.
Oui, bah alors déjà le festival classique Télérama, festival Les Éternels de Télérama qui commence aujourd'hui, c'est un peu partout en France. Ça dure 4 semaines. Alors pour cette première semaine et sur Montpellier, c'est au Royal que ça se passe. Donc une occasion de redécouvrir des classiques de l'histoire du cinéma sur grand écran. Alors aujourd'hui, vous pourrez aller assister à plusieurs séances de Il était une fois la Révolution de Sergio Leone. Demain, ce sera Il Bidone qui est programmé. Il Bidone de Federico Fellini. Ensuite, vous avez Senso, ça ce sera vendredi, Senso de Luchino Visconti. Le Petit Fugitif, samedi, plusieurs séances également. Le Petit Fugitif de Maurice Engel, Russ Orkin et Ray Ashley. Et enfin, dernier film programmé dans cette sélection, c'est Les Vacances de Monsieur Hulot. Il y en a un autre. Donc il y a Les Vacances de Monsieur Hulot, ça ce sera dimanche. Et le dernier film, Vincent, si tu pouvais me...
C'est Taking Off de Milos Forman.
Taking Off de Milos Forman, ça ce sera lundi.
Voilà,
c'est ça,
qui est en avant-première en fait, hein, visiblement. C'est un film qui... C'est le dernier Milos Forman qui sortira en juillet.
Donc pour le coup, c'est pas dans le cadre de Cannes, de Télérama classique.
Non, parce que là, oui, t'es en train de lire le programme du Cinéma Royal.
Du Cinéma Royal. Donc c'était bien Les Vacances de Monsieur Hulot, ça c'est dimanche. La semaine se terminera donc à ce moment-là. En tout cas sur Montpellier. Après, il y a plusieurs autres villes qui sont concernées donc par ce festival. Quoi d'autre dans les événements? Mais il y avait cette soirée Chomsky dont tu avais parlé.
Les médias et les illusions nécessaires. Donc ce sera à l'Utopia ce mardi à 20h15. Alors il s'agira de 2h49 avec Chomsky. Et donc ce sera d'une seule traite. Alors je ne sais pas de quoi sera composé exactement le menu, mais en tout cas, eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'on l'entendra parler. Alors il est déjà apparu hein, à la tribune de la Mutualité à Paris dernièrement. Noam Chomsky, il a fait Salle comble. Et voilà, bah, c'est un intellectuel assez rare, qui n'est pas forcément apprécié par les médias français, si ce n'est par le monde diplomatique et quelques autres. Dernièrement, il a voulu faire une conférence en Cisjordanie et puis les Israéliens, dans leur diplomatie coutumière, ont décidé que non, ce ne serait pas possible. Donc voilà, enfin, il n'est pas. Alors, il est forcément empêché en Israël, mais en France ça se passe très très bien pour lui, on l'apprécie plutôt. Alors moi, ce que je conseillerais, c'est de lire notamment un livre de Denis Robert, c'est 2 heures d'entretien avec Noam Chomsky, 2 heures de lucidité, entretien avec Noam Chomsky, voilà, avec un autre, enfin puisque Denis Robert est un autre personnage maudit en tant que lui journaliste. Donc Chomsky, les médias et les illusions nécessaires, c'est ce mardi 8 juin. C'est une projection unique de presque 3 heures, donc autour de l'intellectuel et ancien linguiste. Et c'est à 20h15 à l'Utopia.
Quant au Diagonal, pour terminer, donc il y a 2 événements. Demain, vous pourrez aller boire un peu de pinard au Diagonal, puisque les vignerons indépendants font leur cinéma et j'imagine qu'ils amèneront quelques cubis en plus des courts-métrages qu'ils ont prévu de projeter. C'est au Diagonal demain à partir de 20h. Et enfin, lundi 7, à 20h, toujours au Diagonal, vous avez la réalisatrice Colline Serrault qui vient présenter son film « Solution locale pour un désordre global » qui est déjà sorti depuis un certain temps à Utopia. Là, lundi 7, au Diago, Colline Serrault sera là et la séance sera suivie d'un débat animé donc par la réalisatrice et également par des représentants d'Attaque Montpellier.
Eh bien, c'en est fini maintenant de cette émission, avec donc de nombreux événements. À noter que Colline Serrault sera aussi... je crois qu'elle vient présenter son livre. C'est pour ça qu'ils en profitent pour
la faire venir,
reprojeter le film.
Mais sinon, oui, il y a une séance de dédicace, je crois, prévue à Sorrance.
Oui, absolument. Ainsi s'achève donc Cinérama. On remercie Amélia à la technique. Cette fois-ci, j'ai bien retenu le prénom. Merci Martin. On se retrouve donc la semaine prochaine, assurément. Et puis, à la fin de ce générique, on pourra entendre un extrait, un des fameux extraits du film La Haine de Mathieu Kassovitz.
À la semaine prochaine.
C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles, enculé, c'est à moi que tu me tiens. Hein ? Ça, c'est à moi que tu parles, là ? Oh, 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 c'est à moi que tu parles, c'est, mec, c'est à moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle, putain ! C'est à moi que tu parles comme ça, mec !
Cinérama sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.